aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, pendant une minute, ceux qui nous suivent sur YouTube et sur X, et ceux qui nous regarderont au moment où cette émission sera rediffusée, ont pu apprécier Isor Delay en train de courir en robe de princesse et en diadème de princesse quasi Disney dans les rues de Paris, les 42 km du marathon de Paris. Bonjour mademoiselle, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir à tous.
Alors, vous avez choisi un autre moyen, alors plutôt que de vous exprimer par la plume comme François Marchand et le professeur Cosset, vous avez décidé de recourir 42 km en robe de bal. Effectivement, ça marche, vous avez été remarqué.
Oui, ça a très bien fonctionné. L'objectif, c'était d'avoir un énorme coup de projecteur sur la cause que je soutiens, qui est les soins palliatifs. Et ça a très bien fonctionné, puisque j'ai cumulé plusieurs millions de vues sur Instagram. Pour mettre en lumière cette branche de la médecine qui est assez méconnue et qui mérite d'être reconnue puisqu'elle apporte énormément en termes de richesse humaine et elle mérite de pouvoir être mise en lumière de façon pérenne.
Alors, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en médecine. Effectivement, on en parlait un petit peu avec le professeur Cosset. Il y a, en théorie, une offre de soins palliatifs en France, mais elle est largement en dessous des besoins de la population. Il y a encore plusieurs dizaines de départements où il n'y a pas une seule structure de soins palliatifs. Ces soins palliatifs, une loi a été votée à l'unanimité pour expliquer qu'il fallait les développer, mais des lois existent déjà, expliquant qu'ils sont nécessaires sans que les crédits aient été alloués. Et en même temps qu'on votait cette loi sur les soins palliatifs, on votait une deuxième loi sur le droit à mourir, la fin de vie, autrement dit l'euthanasie, et ça coûte beaucoup moins cher. Votre crainte, c'est qu'en fait, la fin de vie n'absorbe les soins palliatifs.
Oui, c'est ça. Globalement, l'association pour laquelle je collecte des dons actuellement, ça s'appelle Elebor. C'est une association à l'échelle nationale et qui permet de monter des projets pour améliorer la qualité de vie des patients et des familles qui sont en soins palliatifs. Et ça vient vraiment ajouter une grosse plus-value dans les unités de soins palliatifs, en plus de l'apport médical qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est hyper important de mettre ça en lumière, puisque proposer l'euthanasie comme une solution à tout ça, ça va emmener des dérives. Et en fait, ça peut mener à entraîner une dévalorisation des soins palliatifs au profit d'une proposition plus économique. Puisque c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience, mais les soins palliatifs, ça coûte très cher et c'est malheureusement en soi une médecine qu'on peut appeler médecine de luxe, mais c'est une médecine que je trouve nécessaire et qui est extrêmement importante.
Alors justement, donc vous avez couru il y a 10 jours le marathon de Paris, donc 42,195 km. Vous étiez en robe de bal, vous la portez d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez choisi cette mise en lumière avec le marathon parce que pour vous, déjà, vous êtes sportif depuis l'enfance, mais pour vous, courir sans but n'avait pas d'intérêt. Vous faites vraiment ça dans une démarche de don, parce que en tant qu'étudiante en médecine, vous avez déjà été en stage en soins palliatifs, et Bah, dans un article, je lisais que pour vous, les patients restent souriants, restent lumineux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, justement de ce stage, de cette expérience que vous avez eue en tant qu'étudiante en médecine dans les soins palliatifs?
Alors, mon stage en soins palliatifs, ça s'est passé à l'automne dernier. Je ne pensais pas du tout dans ma fac qu'ils proposaient un terrain de stage en soins palliatifs et j'ai découvert au dernier moment qu'il y en avait un et j'ai foncé dedans. J'avais déjà une vague idée de ce qui allait se passer et de comment l'ambiance allait être puisque j'avais déjà eu plusieurs conférences dans mes années antérieures sur le sujet et je voulais voir vraiment me confronter à la réalité pour voir si ce qu'on m'avait raconté c'était vraiment la même chose et j'ai eu raison. C'était la même chose et c'est des unités qui transpirent la joie, qui sont profondément humaines. D'un point de vue médical, c'est là où j'ai été le plus intégrée à une équipe soignante. Il faut savoir qu'en tant qu'étudiant en médecine, surtout sur les, entre la troisième et la sixième année, on est ce qu'on appelle externe. Donc on apprend dans les services le matin ou toute la journée, enfin on change de stage tous les 3 mois à peu près. Et ça fait qu'on est plus ou moins intégré à l'équipe soignante, mais comme on est un peu comme des électrons libres, parfois on ne connaît pas vraiment les gens. Alors que là, en fait, c'était le premier stage où je me suis sentie vraiment intégrée et faisant partie de tout le personnel dès le premier jour. Et j'hésitais pas à prendre part aux discussions, c'était vraiment incroyable. On avait une super ambiance. Je connaissais les prénoms des infirmières, des aides-soignantes, des secrétaires, des femmes de ménage. C'était vraiment, tout le monde était très lié et ça donnait une grande force. Et heureusement, puisque ce qu'on soigne, ou plutôt ce qu'on accompagne, c'est la fin de vie principalement. C'est des douleurs qui sont incurables, des maladies chroniques et un déclin de la personne qui est inévitable. Et en fait, face à cette souffrance qui est engendrée, faut qu'on soit fort et faut qu'on positive un maximum à côté, puisque sinon, c'est pas tenable.
Professeur Cosset, donc ces unités de soins palliatifs, vous les avez vues naître, vous ?
Oui, quasiment, parce que bon, comme je me rappelle, au tout début, j'ai travaillé avec Léon Schwarzenberg, qui est effectivement a payé d'une suspension d'un an le fait qu'il disait un peu trop fort que de temps en temps il soulageait les malades jusqu'à leur décès. Et à l'époque, on avait effectivement, je me souviens, c'était quand on était interne, on avait une aéroport de consultation de la douleur, pas tellement de collègues qui s'y connaissaient, et on n'avait quasiment pas de soins palliatifs. Progressivement, on a eu effectivement des services de soins palliatifs, dont certains sont absolument remarquables, et ça, bien sûr, ça nous a aidés. Faut pas oublier que, bon, comme cancérologue, bon, si effectivement mon malade arrive en fin de vie, qu'on le veuille ou non, c'est vécu pour nous comme un échec. Et je veux dire, ces unités de soins palliatifs, le fait de savoir que nos patients vont pouvoir terminer leur jour dans des structures où non seulement on soulagera leur souffrance physique, mais effectivement, on prendra en charge leur souffrance psychologique et même bon, le contexte familial et autres. Ça, c'est idéal. Et certains effectivement de ces services font un travail absolument fantastique. Et justement, c'est un peu honteux que l'on soit tellement à la traîne, nous en France, sur effectivement le financement et le développement de ces services.
Alors, en début d'émission, avec François Marchand, nous avions notamment évoqué tout un panel de personnages présentés dans votre roman, dont certains, justement, avaient une vie plate, morne, voilà, dénuée de joie. Vous, Isor Delay, au contraire, transpirez la joie, parce que donc, le sport, le trail, c'est votre passion, mais c'est aussi la valse. C'est pour ça que vous aviez choisi d'ailleurs de courir en robe de bal. Je précise pour les auditeurs, la robe de bal que porte Isor Delay est une création Atelier Juliette Lamy. Voilà, j'en profite.
Sur Radio Courtoisie aussi, on fait du placement de produits,
voilà,
mais c'est gratuit.
Mais c'est gratuit. Et non, mais il faut aussi valoriser les talents et les belles créations françaises. La valse, c'est quelque chose qui vous anime comme le sport. Est-ce que ce sont des éléments qui vous permettent aussi justement de tenir face aux difficultés que vous pouvez connaître en tant que futur médecin, en tant que voilà, Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui vous anime face à vos patients, justement?
Oui, beaucoup. Le sport comme la valse, c'est deux moyens qui m'aident à m'exprimer et à sortir un peu toutes les émotions que je peux avoir à l'intérieur. Parce que je suis plutôt quelqu'un qui est introverti. Ça ne se voit pas forcément sur les réseaux, etc. Mais dans la vraie vie.
Courir 42 km en robe de balle à Paris.
Avec une crinoline, je précise, sous la robe de balle.
Mais globalement, dans ma famille, en général, on me décrit comme quelqu'un de plutôt discret. Donc voilà. Mais oui, la valse, je suis tombée dedans il y a à peu près un an. J'avais mis un doigt dans l'engrenage, c'est mon frère qui m'avait parlé de ça. Et je suis allée à un premier cours de valse, doigt dans l'engrenage. Et j'ai donné un doigt, on m'a pris le bras, quoi. Et maintenant, je suis toute entière. C'est un endroit où j'ai pu faire des rencontres qui sont incroyables, où j'ai pu rencontrer des personnes tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et dont laquelle je ne peux pas me passer au même titre que le sport. Un jour, un cavalier, pendant une valse, m'a demandé « Et si tu devais choisir entre courir et valser, qu'est-ce que tu choisirais ?» Et j'étais incapable de choisir, puisque autant j'ai besoin de l'un, autant j'ai besoin de l'autre pour pouvoir être pleinement équilibré.
Et donc, c'est ce que vous avez choisi pour mettre en avant les soins palliatifs lors du marathon de Paris. Bravo.
François Marchand, dans votre roman, donc Dans la dignité, paru aux éditions Buchet-Chastel, il y a un moment donné où quelqu'un court, justement, c'est ce père et ce fils qui sont joyeux. Ils sont ensemble, ils ont l'air d'être pleinement présents l'un à l'autre, ils n'ont pas l'air de s'occuper en fait de ce qui se passe. On en a croisé souvent dans la rue des pères qui chantent avec leur fille ou avec leur fils et qui se moquent des passants et on sent les enfants absolument transcendés de vivre ce moment-là. Et il s'agit d'un handicapé mental, si j'ai bien compris, de quelqu'un atteint de trisomie 21. Et vous décrivez leur apparition, mais comme une apparition quasi miraculeuse, avec un halo qui n'est pas juste le fait qu'ils passent par une trouée de lumière, mais comme s'ils étaient auréolés de cette joie. Est-ce que Isor pourrait faire partie de vos personnages de roman? Est-ce qu'elle pourrait traverser aussi comme un moment de vie vos petites dystopies? Parce que c'est vrai, en fait, depuis que vous écrivez, vous êtes là pour dénoncer les travers contemporains avec un regard à la fois lucide et désabusé. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous aimeriez imaginer un personnage qui dit non?
Oui, mais je crois qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup dans ce livre. Mais effectivement, il y a ce père et cet enfant.
Oui, deux pages. On a deux pages de bonheur sur, sur 140.
C'est vrai que j'aurais pu mettre 10 heures, mais je ne savais pas. Mais oui, pourquoi pas.
Pour le prochain roman.
En fait, il y a dans le désastre général, il y a des élus. Donc, par exemple, là, dans mon livre, c'est effectivement ce père avec cet enfant trisomique. C'est des survivants. C'est des survivants, c'est aussi des élus. On voit, alors dans le journal public, par exemple, il y a des élus. Les élus, par exemple, ça va être, si vous voyez, par exemple, sur un vélo, un jeune enfant qui n'a pas de casque, c'est un élu, par exemple. Voilà, c'est très rare, mais ça existe. Vous voyez parfois des enfants sans casque. Ce sont des élus. Donc, éventuellement, pourquoi pas, oui, j'aurais pu mettre ça aussi, effectivement, oui, il y a des élus. Voilà. Mais heureusement, sinon, ce serait vraiment déprimant. Ouais.
Professeur Cosset, donc la manière dont Isor Delay a décidé de témoigner pour les soins palliatifs, c'est un peu comme votre tribune, c'est un coup de poing au milieu d'un ronron médiatique bien réglé où il s'agit à chaque fois d'être très sérieux, de prendre en compte la dignité des gens, de ne pas être dans l'outrance. On vous a reproché votre ironie en expliquant que des affaires aussi graves méritaient autre chose que de l'humour. De même, je suppose qu'on dira à Isor Delay que quand on s'occupe de la dignité des gens, eh bien, on ne court pas en robe de balle, surtout avec une cérémonie sportive, qui est un truc quasiment plus sacré aujourd'hui que n'importe quelle messe le dimanche. Vous partagez l'idée que le fait de ruer dans les brancards est malgré tout une bonne idée, ou que si on a envie de s'adresser aux gens, c'est pas avec uniquement des arguments, c'est aussi en essayant de réveiller leurs sentiments?
Je pense qu'effectivement, de temps en temps, il faut mettre un petit peu un coup de poing et lancer un pavé dans la mare, parce que Bon, écoutez, à titre personnel, j'ai écrit beaucoup plus que cette tribune. J'avais écrit un bouquin complet, même en 12 versions, avec un éditeur qui m'a fait réécrire 36 fois, pour me dire à la fin, bon, de toute façon, ça n'intéresse personne, ça c'est pas vendeur, donc bon, non, on vous le prend pour bon.
Alors, Buchet-Chastel. Non, non.
Oui, peut-être. Je me suis peut-être pas adressé au bon. Voilà. Mais donc, effectivement, là, j'avais envie de mettre un petit pavé dans la mare, même un gros pavé dans la mare. Les réactions étaient assez surprenantes. Moi, j'étais pas habitué. Je suis un petit peu comme la demoiselle, un collègue. C'est que les réseaux sociaux, moi, je regarde pas trop. Là, j'ai regardé un petit peu les réactions. J'étais un peu surpris. Tantôt, c'était dithyrambique, de gens qui étaient effectivement 100% d'accord avec moi. Et puis, tantôt, on me souhaitait de mourir dans d'atroces souffrances. Je pense qu'ils avaient pas tout compris. Donc j'ai peut-être été un peu trop loin dans le second degré. Mais bon, j'assume totalement si ça fait bouger les choses. Effectivement, j'assume totalement.
Isor Delay, donc vous avez dit que vous aviez eu des millions de vues sur Instagram, mais effectivement, c'était compliqué d'échapper. On est ravis d'ailleurs d'avoir été soumis à cette vague. Vous-même, il y a des commentaires, il y a des réactions qui vous ont touché, il y a des réactions qui vous ont troublé, il y a des réactions que vous n'avez pas comprises?
Globalement, j'ai eu que des réactions positives. J'ai eu une personne, ce qu'on appelle un haters, qui disait dans les commentaires, non mais pour qui elle se prend celle-là, pourquoi elle court en robe de bal, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, j'ai vu que tout le monde prenait ma défense et rembarrait cette personne, etc. Mais à part ça, j'ai eu que des commentaires positifs, que des messages qui me disaient, mais merci, vous êtes un modèle, ce que vous faites, c'est extraordinaire, etc. Merci de mettre les soins palliatifs en lumière, de les porter. Avec vous, malgré le fait que vous soyez jeune, etc. Et ça m'a beaucoup réconforté et ça m'a beaucoup confirmé dans mon choix aussi de parler de ça. C'est vrai que j'avais un peu peur aussi des réactions négatives et en fait, j'en ai pas eu.
Bon, tant mieux. Alors, je parle comme un patagon, il y a un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit merci pour cette émission très intéressante, mais on le sent, comment dire, un peu sur la réserve. D'une part, et c'est une question qui s'adresse à vous tous, savez-vous combien de personnes se suicident en EHPAD ou se laissent mourir dans l'indifférence générale?
Bah tous, non?
Non, pas tous. Moi, je
Ceux qui
connais.
sont contents, moi, tous, non?
Oui, puis c'est pas parce qu'on est en EHPAD qu'on se suicide. Enfin, moi, je connais le grand-père d'une de mes nièces par alliance qui va avoir 100 ans et ça fait 10 ans qu'il est en EHPAD. Visiblement, il attend fermement de fêter ses 100 ans. Et, enfin, voilà, donc, il n'a pas l'air prêt, du tout prêt à se suicider. On a des statistiques sur le fait que l'EHPAD serait un milieu pathogène, avec notamment pendant le Covid, tous ces médecins qui décidaient d'administrer je ne sais plus quelle drogue qui permettait d'envoyer ad patres les malades. Ou d'ailleurs, c'est aussi, j'ai appris ça récemment sur la médecine d'urgence. Voilà, une infirmière que je connais qui disait, voilà, quand on appelle, on est en EHPAD, quand on appelle les services d'urgence parce qu'un des résidents a un problème, on nous demande quel âge il a, et s'il a 90 ans, les services d'urgence décident de ne pas se déplacer parce que, après tout, passé 90 ans, la personne n'a qu'à mourir. Vous-même, vous avez fréquenté, si j'ose dire, les EHPAD, vous avez des notions sur ce que ça signifie comme désespoir ou au contraire indifférence.
Alors malheureusement, j'ai pas vraiment fréquenté d'EHPAD pour le moment.
Et vous êtes un peu jeune, j'entends bien, mais.
Oui. Ce que j'ai principalement fréquenté, c'est des unités de soins palliatifs, où là, les personnes sont vraiment accompagnées et on s'intéresse vraiment aux patients, à sa famille, et on les prend vraiment en charge dans la globalité. Donc pour le coup, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et personne n'est oublié et laissé pour compte. Pour les EHPAD, je sais qu'il y a des problèmes, etc. Mais honnêtement, je ne me suis pas penchée sur la question.
Le même auditeur nous dit merci pour cette émission très intéressante. Il le dit deux fois, donc merci
donc
à vous.
Donc c'est qu'elle doit être très intéressante.
Comment ça s'appelle ? On est tous très intéressants. Les soins palliatifs seront réservés aux personnes connues, donc je n'y crois pas. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était peut-être une médecine de luxe. Alors, c'est une question que je vous adresse à vous, Isor, en même temps qu'à vous, professeur Cosset. Est-ce que véritablement les soins palliatifs sont une médecine de luxe ? Ou est-ce que le développement des soins palliatifs ne permettrait pas de baisser leurs coûts ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un accompagnement palliatif dans des structures comme les EHPAD, etc. ? Donc, autrement dit, les soins palliatifs, pour le moment, sont assez peu répandus et donc on a mis en place des structures qui leur sont entièrement dédiées, mais on pourrait imaginer, en fait, qu'il y ait des économies d'échelle, comme on doit dire sans doute dans les agences régionales de santé, qui permettraient de baisser le coût des soins palliatifs.
Alors, les soins palliatifs, une médecine de luxe, parce que ça coûte quand même très cher, il ne faut pas se voiler la face, les personnes qui sont hospitalisées en soins palliatifs, comme toute hospitalisation, c'est plusieurs milliers d'euros par jour, etc. Et le fait qu'on appelle ça luxe, parce que ça ne va pas mener à la guérison de la personne. On ne va pas ressortir des soins palliatifs comme si on ressortait d'une opération en orthopédie, etc. Donc c'est un peu comme si ça donnait l'impression qu'on jetait un peu l'argent par les fenêtres, alors que ce n'est pas du tout le cas, en vérité. Et forcément, je pense que démocratiser les soins palliatifs permettrait de baisser leurs coûts. C'est comme, par exemple, en fait, le téléphone. Au départ, il n'y avait qu'un seul téléphone, ça coûtait extrêmement cher. Et de plus en plus, on l'a démocratisé, on a trouvé d'autres moyens, on a développé plein de choses. Et forcément, ça a fait baisser les coûts. Donc, le fait de démocratiser, oui, ça va baisser les coûts.
Ça va baisser les coûts.
Et puis rendre ça plus accessible.
Professeur Cosset, vous pensez en fait qu'on peut parfaitement développer les soins palliatifs en France ?
Bien sûr. Alors, les coûts, ça dépend de ce qu'on parle. Vous savez, les coûts, nous, en cancérologie, on a des traitements qui sont pas toujours malheureusement efficaces, qui sont alors là, des années-lumière au point de vue du coût des soins palliatifs. Il y a des injections à 200 000, à 300 000 euros. Donc, le coût, je pense qu'effectivement, on va pouvoir le baisser, effectivement, en améliorant les choses. Moi, alors, par contre, la liaison.
Pardonnez-moi, je vous coupe, mais 300 000 euros l'injection, quand on voit le temps qu'on reste en soins palliatifs, même à plusieurs milliers d'euros la journée, on ne reste pas en soins palliatifs pendant 6 mois.
Là je ne parle pas de soins palliatifs, je parle de cancérologie.
Non, j'entends bien, mais du coup, je comparais, parce qu'à 300 000 euros, à 300 000 euros l'injection, admettons à 10 000 euros la journée en soins palliatifs, et en théorie, c'est moins cher, si j'ai bien regardé mes notes, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en soins palliatifs et qui n'y restent pas 30 jours.
Ça dépend un peu des unités. Je sais qu'il y a des hôpitaux où c'est des séjours qui sont courts, moyen terme, d'autres où c'est du long terme. Ça dépend un peu. Globalement, là où j'étais en soins palliatifs, le maximum des jours, c'était une quinzaine de jours. Ah. Et souvent, les personnes, soit elles mouraient, soit elles retournaient chez elles. Donc, c'était des séjours de répit.
Et pardonnez-moi, je vous ai coupé, professeur Cosset.
Non, mais je pense qu'il y a une liaison à faire, qui est déjà faite partiellement et largement, entre effectivement les EHPAD et le soin palliatif. Mais je pense qu'il y a aussi, puisqu'on parlait un petit peu d'EHPAD, revenir un petit peu aux EHPAD, la façon dont on présente les choses aux gens, puisqu'on parle là d'euthanasie, d'aide active à mourir et autres. Moi, ce qui m'a assez terrorisé, c'est, je pense que c'était surtout les témoignages venant du Canada, où des gens effectivement en EHPAD qui se plaignaient un peu de souffrance psychologique et tout, et où on venait leur proposer en disant « mais vous savez, il y a aussi l'aide active à mourir, faut peut-être y penser ». Ça, c'est une façon de faire partir les gens qui est quand même assez épouvantable, je pense, sur le plan moral, de la morale des gens, c'est quand même à revoir.
Alors, d'ailleurs, à propos de ça, je pense qu'il y a deux choses à distinguer entre l'euthanasie et les soins palliatifs, si j'ai bien compris, c'est mon ressenti et c'est de tout ce que j'ai pu lire autour de ça, c'est ce que j'ai compris. dans l'aide à mourir active, dirons-nous, ou enfin, l'euthanasie tout simplement, on exclut totalement les proches, on exclut totalement la famille. Alors que dans les soins palliatifs, comme vous le disiez, Isor, on prend le temps de connaître les proches, on prend le temps de discuter avec la famille. Y a un choix, en fin de compte, qui se fait aussi vraiment d'accompagnement jusqu'au bout. Au-delà du soin, il y a aussi l'accompagnement psychologique, émotionnel. Ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est aussi très fortement mis en avant dans les soins palliatifs et qui n'est pas du tout... qui est proposé pour l'aide à mourir active de manière... rendez-vous mardi, comme disait François Marchand dans un de ses personnages.
Oui, c'est le seul service où j'ai vraiment connu un peu les familles des patients. Typiquement, quand on accueillait un patient en hospitalisation, on avait d'abord un entretien avec lui et les proches qui l'accompagnaient. Ensuite, on avait un entretien juste avec lui tout seul. Ensuite, on avait aussi un entretien avec ses proches. Donc, comme ça, ça nous permettait d'avoir une vision globale des uns et des autres, puisque parfois, le patient est un peu confus, il a des troubles cognitifs, etc. Donc, ce qu'il dit n'est pas forcément tout à fait la réalité, ce qui nous permet aussi de confirmer ou d'infirmer avec les proches et d'avoir aussi une vision des désirs des uns, des autres, etc. Et ça nous permet aussi de créer du lien avec la famille et de l'accompagner quand la personne va décéder, que ce soit des parents, puisqu'on avait des jeunes aussi qui étaient hospitalisés en soins palliatifs, ou que ce soit les enfants également.
François Marchand, dans la manière dont Isor Delay manifeste en faveur des soins palliatifs, donc c'est une jeunesse, comme on disait avant, par rapport à Olivier Falorni, qui a plutôt notre âge, on commence à descendre la pente, ça roule de plus en plus vite. Est-ce que vous avez le sentiment que... il y a une mauvaise information des Français, que c'est un débat qui est verrouillé par de vieux progressistes qui sont restés figés dans les années 70-80, où il s'agissait d'émanciper tout le monde, donne tout et n'importe quoi, et surtout de s'émanciper soi-même de toute règle morale. Ou est-ce qu'au contraire, c'est la société tout entière qui est en train de crouler? Et là, vous nous montrez des personnages qui sont de différents milieux, les uns actifs, les autres inactifs, les uns chargés de famille, les autres célibataires, certains qui pensent avoir eu une vie bien remplie parce qu'ils ont fait le Mexique et ils ont fait l'Argentine avant de faire la Turquie. Ou au contraire, on a le sentiment qu'il peut y avoir une espèce de sursaut et que la jeunesse n'est pas prête à croire déjà à la mort et à la nécessité d'avoir un plan d'épargne retraite ou plutôt un plan d'épargne obsèque.
Oui, Isor, on est le témoignage, mais je crois...
Mais est-ce que c'est une
alors,
exception
Non, mais c'est certain quand même que...
On parle d'elle comme si elle n'était pas là.
Ouais. Non, il est certain que l'euthanasie va bien avec les boomers. C'est-à-dire que c'est quand même une tentation, puisque de toute façon, ils ont vécu toute leur vie avec l'idée de tout jeter par-dessus bord, toutes les règles religieuses, à commencer par ça, et puis à vivre sans contrainte, mu par leur seul désir. Donc, la fin, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué de... Ça faisait pas partie du projet quand ils étaient jeunes. Il n'y a jamais eu ça, quoi. Il n'y a jamais eu ça. Donc... peut-être que c'est surreprésenté chez les boomers, c'est possible, cette idée d'euthanasie, ça c'est possible. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de boomers qui sont tentés, ouais, ça c'est sûr. Et j'espère que chez les jeunes, non, ça, c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est une question que je voulais poser à vous, monsieur le professeur, c'est, par exemple, chez vos jeunes confrères, bon là, on a Isor qui est étudiante, mais chez vos jeunes confrères, vos vues trouvent un certain écho ou comment vous jugez la situation ?
Je pense qu'effectivement, il y a une poussée globale de ce qu'on appelle le progressisme. Bon, alors le progressisme, il faudrait savoir un petit peu ce que c'est. Enfin, effectivement, c'est cette volonté de choisir sa mort, de choisir sa vie et la façon de s'en sortir. Je dirais qu'un peu, cette notion est un peu dévoyée. Moi, quand j'ai vu, quand Juste pour prendre un exemple, quand les Belges donc ont étendu leur loi aux mineurs, ce qui n'était pas le cas au tout début, les mineurs étaient exclus. Bon, ils ont étendu leur loi. Et à ce moment-là, il y a eu des gros titres dans les journaux belges disant « Enfin, la Belgique est un pays progressiste ». Alors là encore, que si effectivement le progressisme, c'est d'autoriser des gosses, des gamins de 12 ans de demander à mourir, moi je doute de l'intérêt du progressisme. Moyennant quoi, effectivement, on a beaucoup de mal à faire passer notre message. Moi, j'en veux pour preuve aussi quand j'ai commencé à évoquer avec certaines personnes d'écrire là-dessus. Moi, je dis, mais enfin, pourquoi t'écris là-dessus? Puisque de toute façon, l'euthanasie, tout le monde est d'accord. Alors, pourquoi t'es contre? C'est idiot. Tout le monde est d'accord. Sauf que je crois qu'il y avait, effectivement, on posait pas tout à fait la même question, ou on se posait pas tout à fait la question de l'euthanasie dans telle ou telle condition. Si c'est effectivement soulager des gens de souffrances physiques épouvantables associées à des souffrances psychologiques pour des gens qui effectivement ont 48 heures à vivre ou peut-être un peu plus mais pas beaucoup, bon ben bien sûr tout le monde est d'accord, mais c'est pas ça le problème. Le problème, je dirais, c'est effectivement les dérives possibles dont je parlais tout à l'heure qui ouvrent effectivement la porte à l'euthanasie des plus vulnérables, des vieillards, des handicapés, des familles d'handicapés morales, mentales ou physiques sont très inquiètes. Et bon, on voit ils prennent la parole pour dire qu'effectivement ils sont très inquiètes de l'évolution effectivement de la législation. Donc là, manifestement, je pense qu'il faut faire très attention sur les dérives possibles d'une loi qui, au départ, était peut-être, comme ça a été dit, une loi de fraternité. Oui, mais bon, faut pas faire n'importe quoi avec la loi. Effectivement, je sais plus qui a dit que, effectivement, pour légiférer là-dessus, il faut légiférer la main tremblante. Bah oui, bah, je trouve que nos députés, ils tremblent, la main ne tremble pas trop.
Non, ils ont eu la main bien ferme. Et Isor, vous nous disiez que vous aviez couru notamment pour défendre une association et une association qui vient compléter l'offre de soins palliatifs en permettant aux familles d'accompagner le mourant, ou en tout cas le malade. Et c'est en contradiction directe, si j'ose dire, avec l'esprit de la loi, où on a l'impression que chacun est seul face à la mort. Est-ce que là aussi, les soins palliatifs ne sont-ils pas le lieu où on redécouvre en fait la solidarité familiale, on redécouvre la puissance du lien, on redécouvre en fait que les gens ne sont pas seuls, en tout cas qu'ils ne le désirent pas et qu'il est très facile de les accompagner?
Oui, bah quand on met un petit peu de moyens financiers, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Typiquement, là, les fonds qui sont récoltés avec les bords vont permettre soit de construire des infrastructures pour accueillir les familles dans les unités de soins palliatifs, créer des espaces, des salons, des cuisines, etc. Ou alors aménager des jardins. Je sais qu'il y a des jardins thérapeutiques intergénérationnels qui ont été créés entre des EHPAD et des hôpitaux pour enfants et qui permettent en fait de créer une rencontre entre les personnes âgées et les plus jeunes. Il y a des aires de jeu qui ont été construites à Necker et il y a aussi sur le plan plus activités proposées, il y a des biographes qui ont pu être mis en place dans certaines unités. Et la biographe passe plusieurs fois par semaine voir les patients et leur demander est-ce que vous voulez, par exemple, que je vous aide à retranscrire par écrit un moment de votre vie que vous voudriez transmettre à vos proches? Ou alors, il y a aussi des séances avec une socio-esthéticienne qui permettent de faire un petit soin, des massages, etc. pour les patients, pour se sentir bien. Et tout ça, ça contribue à la qualité de vie et au confort. Et ça permet aux patients de se dire « Ah bah en fait, je suis chouchoutée et je compte encore. »
Je compte encore. Et c'est vraiment ça qui a l'air d'être nié par cette loi validiste où seul le bien portant compte, par cette loi utilitariste où seuls ceux qui peuvent prouver qu'ils contribuent à la société, par exemple en étant député socialiste, qui leur permet de proposer des lois intéressantes. Pardonnez-moi si je choque vos opinions, je vais essayer de ne pas être trop politique. Et c'est vraiment les soins palliatifs qui nous révèlent que en fait, il n'y a pas de vie qui soit médiocre, il n'y a pas de vie qui soit en dessous les unes des autres.
Oui. Globalement, personne ne perd sa dignité, quel que soit son état. et toute personne compte, quel que soit son état, et mérite de vivre, et a le droit de vivre, justement. Et globalement, je pense que c'est aussi un problème un petit peu dans la société, où on a tendance à se dire qu'une fois qu'une personne n'est plus utile, ou elle coûte beaucoup d'argent, plus qu'elle n'en rapporte, etc., bah, en fait, il faut la mettre à l'écart et elle compte plus du tout. Mais en fait, les personnes, bon, globalement, plus les personnes âgées que j'ai rencontrées en soins palliatifs, elles ont énormément à nous apporter. J'ai pu avoir de très beaux échanges avec certains patients, notamment le tout premier dont j'ai pu m'occuper là-bas, où je lui avais posé une question à un moment, c'était pour m'amuser quelque part et engager la conversation, je lui avais demandé « Monsieur, qu'est-ce que vous conseilleriez à une jeune fille comme moi dans la fleur de l'âge comme conseils globaux de vie ?» Et c'est un patient qui n'était pas du tout catholique, croyant, etc. Pour lui, la religion, c'était complètement quelque chose un peu farfelu. Et il m'a répondu bah, pour moi, le plus important, c'est surtout que on a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il a enchaîné tout de suite en me disant bon, ça fait un peu chrétien ce que je dis, etc., mais en fait, c'est vrai. Et c'est une phrase qui m'a marquée. Et à ce moment-là, je commençais tout juste à courir pour des associations, etc., pour récolter des fonds et allier le sport, la solidarité, etc. C'est vraiment une phrase qui est venue fonder ce pourquoi je me bats aujourd'hui.
Alors, quelle est la perception de votre engagement sur les bancs de la fac de médecine? Et est-ce que, pour rejoindre ce que disait le professeur tout à l'heure, est-ce que vos confrères de votre génération, ceux qui sont externes, internes ou en toute première année d'études, se sentent investis et ont envie de s'investir pour les soins palliatifs? Est-ce que le serment d'Hippocrate a encore quelque chose à dire?
Globalement, dans mon entourage, j'ai mes amis qui sont au courant de mes activités sur les réseaux sociaux, etc. J'ai quelques co-externes dans mes stages qui sont aussi au courant, mais qui l'ont découvert par eux-mêmes. J'en parle pas forcément de moi-même, parce que j'ai pas envie que la vision des personnes avec lesquelles je travaille change parce que je fais telle ou telle chose. Et je restais plutôt dans un cadre professionnel, etc. Donc, j'en ai pas forcément énormément parlé avec elle. Par contre, j'ai reçu des messages de soignants sur les réseaux, etc., qui m'ont dit, notamment des soignants en soins palliatifs, qui m'ont dit que c'était trop bien de pouvoir mettre en lumière comme ça les soins palliatifs et d'en parler, d'oser en parler et de combattre pour eux.
Oui. François Marchand, dans votre roman, il y a deux moments qui m'ont... j'espère ne pas me tromper sur le premier. À un moment donné, le docteur Combes visite quelqu'un qui a beaucoup couru et qui a des trophées sportifs. C'est bien ça? Ou pas du tout? C'est horrible. Je pense que
il admire, c'est dans
et,
les...
Et il admire
ses... C'est justement, c'est les questions...
Ça ne me dit rien, mais bon, peut-être...
Il admire ses trophées. En fait, le docteur Combes tient à faire un peu de parlotte pour être gentil.
Produit.
Et l'autre l'embarque dans une conversation longue comme un jour sans pain sur les différentes courses qu'il a courues.
Non, je ne crois pas ça.
Non,
ça ne dit rien.
Alors, pardon.
Mais c'est peut-être un autre...
C'est peut-être un autre très bon romancier.
Qui n'a pas été invité.
On en a parlé avec Richard tout à l'heure. Donc,
Non, mais c'est pas...
Sur les deux,
il y en a un qui joue au tennis, qui était 15-5 au tennis.
Je confonds le marathonien et le tennis. Pardonnez-moi.
Et le professeur lui dit, c'est un bon classement.
Voilà, c'est ça.
Et donc, on sent que sa vie est résumée à ses trophées et à ses souvenirs. Et évidemment, il est incapable de les transmettre à qui que ce soit. De même, l'autre avec ses albums de voyage qui visiblement prennent la poussière et il les a entassés, bien reliés et personne ne s'en occupe. Quand Isan nous dit qu'il y a des biographes qui passent et qui vont recueillir ces parcelles de vie qui étaient ignorées, ces souvenirs qui peuvent paraître dérisoires mais qui au contraire sont peut-être terriblement importants pour ces gens-là et d'ailleurs des gens dont, si ça se trouve, on va découvrir qu'ils ont des vies admirables qui étaient cachées sous le boisseau. C'est là aussi, on sent que on oppose un monde où on est allé dans l'indifférenciation entre la vie et la mort, comme vous disiez au début de cette conversation, mais aussi un monde où l'individu finit par être abîmé en lui-même et ne plus pouvoir rien communiquer à force de thésauriser sa propre vie d'une manière qui a envie de collectionner les trophées des autres, en fait.
D'autant qu'un 5, c'est pas terrible, en plus, comme classement, il n'a aucun trophée. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, il est fier d'un truc qui est en plus pas extraordinaire.
Voilà, François Marchand, dans sa biographie chez Buchet-Chastel, explique quel est son degré de maîtrise des échecs. Et d'ailleurs, vous avez l'air de dire que vous êtes bon, mais pas tant que ça, d'ailleurs.
Aux échecs. Non, pas extraordinaire, malheureusement. Ouais, ouais. Non. Et puis avec l'âge, en plus, ça s'effondre totalement. Okay.
Bon, très bien. Ouais. Je ne sais pas pourquoi j'avais essayé de vous vendre optimiste, mais effectivement, c'est peine perdue.
Ouais. Non, mais sur le biographe, ouais, c'est une bonne idée. Mais en fait, ce qu'on peut peut-être... Parce que peut-être qu'il y en a même qui peuvent encore écrire, non ? En fait, le mieux, c'est de leur filer, même pour ceux qui peuvent écrire, chez les personnes très âgées, un cahier, des fois, c'est une révélation. Il ne faut pas que ce soit trop affaibli, quoi. Je pense qu'en soins palliatifs, parce qu'ils sont trop affaiblis, non ?
Il y en a certains qui peuvent encore écrire, oui. D'autres qui ne le peuvent plus. La biographe, elle est plus là pour susciter en eux l'envie et aussi pour les aider dans certaines tournures de phrases, etc. Ça aide quand même pas mal.
Ce qui doit être drôle, c'est que dans les soins palliatifs, parfois, il y a la biographe qui, elle, donc, a fait un bac plus 3 en AES à Tolbiac. Et parfois, la personne en train de mourir, ça va être une ancienne élève de l'école des Chartres. Vous voyez, ça va être drôle, quoi. Donc, là, la biographe qui va dire « Bon, je vais vous aider à écrire, quoi. Oui, mon jeune ami, mais j'ai quelques notions, quand même. Non, parce qu'on présuppose que, parce qu'ils sont morts, en fait, enfin, ils vont mourir, je veux dire, ils sont presque morts, parce qu'en soins palliatifs, malheureusement, c'est le cas. Et c'est vrai que c'est parfois une vision qu'on a, vous voyez. Et en fait, parfois, il y a des gens, c'est vrai que, je sais pas, vous avez dû voir, il y a des gens, en fait, on parle avec eux deux minutes, et en fait, ils ont un niveau monstrueux, quoi. Et comme la tête, parfois, c'est ce qui part en dernier, certains, je pense, peuvent écrire eux-mêmes. Mais c'est une bonne idée, ça, de leur faire écrire. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'idée. Autrefois, dans les familles, c'est vrai qu'on écrivait ses mémoires. Ça s'est un peu perdu.
Je me souviens, quand j'étais en école primaire, on avait un exercice à faire. Il fallait interroger, pour comprendre son arbre généalogique, on devait interroger nos parents, nos grands-parents, et si on les avait encore, nos arrière-grands-parents, sur est-ce que tu avais le téléphone chez toi, ou à quel âge tu te souviens d'avoir eu une machine à laver, enfin ce genre de choses, pour comprendre l'arbre généalogique et les modes de vie. Et c'est marrant parce que c'est une question que j'ai reposée à mes grands-parents l'été dernier. Moi, je suis du côté de ma mère, je suis l'aînée. Et donc, le dernier de mes cousins est encore au collège. Donc, c'est un exercice qu'il aurait pu avoir à faire. Et j'ai posé la question à mes grands-parents. Est-ce que vous avez encore fait cet exercice, justement, de transmission ? Et ma grand-mère a répondu, mais non, mais aujourd'hui, c'est impossible. Il y a trop de statuts familiaux différents pour comprendre qui est le grand-père et la grand-mère et la tante. Et bon, ça, c'était l'ironie de ma grand-mère qui répondait comme ça. Mais effectivement, les scolaires ont dû abandonner cet exercice de transmission. Mais alors, je voudrais rebondir, sinon, ce que vous nous avez présenté, Isor, sur tout ce qui est mis en avant dans les soins palliatifs. Donc, il y a, comme le disait François Marchand, le travail avec le biographe. Vous parliez des soins aussi, des massages et choses comme ça. Moi, je savais que ça existait uniquement pour les femmes, notamment, qui ont un cancer, celles qui ont perdu leurs cheveux. Les cheveux, chez la femme, c'est quand même un marqueur très fort de féminité. Donc, réapprendre à découvrir et à se réapproprier son corps, sa féminité, avec le maquillage, choses comme ça. Je connaissais, mais je ne savais pas que ça existait en soins palliatifs, et je suis ébahie de tout ce qui est mis en place avec des associations, notamment celle avec laquelle vous collaborez. Je trouve ça extrêmement dommage que les politiques ne mettent pas ça autant en avant, justement. Enfin, dans le projet de loi, tout le monde était d'accord pour dire, d'ailleurs, ça a été un vote unanime, qu'il faut développer les soins palliatifs. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait dit au grand public, à la société civile, vous savez, les soins palliatifs, oui, ça coûte cher, mais en réalité, on met ça en avant. On permet aux patients de rencontrer un tel. On permet à une patiente d'avoir un soin avec une esthéticienne. On permet aux enfants d'avoir une aire de jeu. On permet de créer du lien intergénérationnel. Je trouve ça extrêmement dommage que ce soit, en fait, comme caché, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que seules les personnes qui sont confrontées, notamment dans le personnel soignant, aux soins palliatifs, vous êtes les seuls, entre guillemets, à avoir vraiment conscience de ce qui existe. Est-ce que vous, Isor, avant d'entrer en stage de soins palliatifs, vous saviez que tout ça existait ? Vous connaissiez les soins palliatifs, certes, mais toutes les structures qui pouvaient être mises en avant ?
Non, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert Elébor dans mon stage. Et après, je les ai contactés et on a commencé à travailler ensemble. Mais avant, j'en avais aucune idée.
Oui, donc ça rejoint justement mon étonnement vis-à-vis des politiques qui n'en parlent pas.
Et votre sentiment. Professeur Cosset, l'un des auditeurs de Radio Courtoisie nous dit « La dignité des politiques ne serait-elle pas de permettre à leurs administrés assujettis de vivre dans la dignité plutôt que de les inciter à, mourir en leur faisant croire qu'ils sont inutiles ?»
Oui, ça c'est clair. J'avais eu d'autres échanges aussi où les gens disaient, faudrait peut-être avant de les aider à mourir, faudrait déjà s'occuper de les aider à vivre, correctement. Et bon, et même si on va plus loin, les aider à vivre effectivement sans la souffrance, encore physique et psychologique, jusqu'au bout. J'ai connu aussi Axel Kahn qui disait bien que la seule chose qui est concevable d'abréger, c'est pas la vie, c'est la souffrance. Bon, même si, on l'a vu dans nos discussions, quand aussi à terme, en fin de course, en soulageant ces souffrances, on réduit un petit peu l'espérance de vie qui reste. Puisque j'ai la parole, je reviens un tout petit peu en arrière.
Oui, pardonnez-moi d'avoir donné l'impression de ne pas vous la donner.
Non, mais je n'ai pas voulu interrompre. Mais je veux dire que j'ai été très touché par ce qui a été dit sur les biographies. Il se trouve que, nous avons perdu avec ma sœur il y a très peu de temps notre maman à 99 ans et demi, et nous lui avions demandé, en EHPAD, donc d'écrire sa vie. Et on a écrit quelque chose comme 200 ou 300 pages. Elle était encore suffisamment de neurones pour effectivement écrire tout ça. Mais c'est extraordinaire parce que nous avons appris plein de choses. Et en particulier, je dois dire, la description par ma vieille maman du bombardement de la chapelle, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où effectivement les bombes anglaises ont écrabouillé le 18e arrondissement, un épisode dont on ne parle quasiment jamais, c'est resté quelque chose avec des morts coincés dans les caves et dans les abris, et quelque chose d'absolument qui nous a retourné complètement. Enfin, je m'excuse un petit peu, j'ai un peu dévié.
Mais n'attendons pas, peut-être dire aux auditeurs de ne pas attendre d'entrer en soins palliatifs pour écrire.
Ces témoignages sur l'écriture, aidés plus ou moins, ou même complètement, des biographies, me semble tout à fait remarquable.
Maintenant que vous avez couru pour Ellebore, donc Ellebore, E-2-L-E-B-O-R-E.
H-E-L-O-B-O-R.
Oui.
H-E-L-E-B-O-R. Oui. Voilà. Et donc, on tape Ellebore et ça apparaît tout de suite sur Internet.
Normalement, oui.
Bon, voilà. Maintenant que vous avez couru pour Ellebore et que votre avenir médical, vous êtes en quatrième année, je crois. En cinquième année. Donc, il vous reste encore 2 ans.
Il me reste 1 an et demi avant l'internat. Ouais. Ensuite, je pense 4 ans.
Et alors, la spécialité médicale que vous choisissez ?
Je voudrais faire de la médecine générale.
Médecine générale, voilà, pour être aussi au plus près des patients. Un auditeur nous dit qu'il a supervisé jusqu'à 200 EHPAD jusqu'à avant l'affaire Covid, et que lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il y avait surtout une évolution de plus en plus marquée vers ce qui s'apparente à des services de gériatrie lourde, avec une moyenne de 5 à 6 pathologies d'organes par résident, ce qui marquait déjà bien la précarité de ces établissements. Voilà, effectivement, la longue vie, c'est de plus en plus de gériatrie, mais la disponibilité des médecins était déjà un problème crucial depuis les réformes du temps de Giscard Chirac-Vel qui ont tout fait pour bien diminuer les dépenses de santé en mettant en pratique le slogan génial que c'était l'offre médicale qui créait la maladie. Voilà, ce qui mérite bien le Panthéon, termine-t-il avec un peu d'ironie. Donc cette médecine générale, là aussi c'est une médecine au plus près des patients, là où on en a besoin. Enfin, on a l'impression que vous allez vouloir repeupler les déserts médicaux à vous toute seule. Voilà.
En robe de bain, bien sûr.
Alors, je ne sais pas si j'irai au fin fond de la Pampa, etc. Mais globalement, au départ, quand je suis entrée en médecine, je voulais faire de la chirurgie, plutôt de l'orthopédie, etc. Quand je suis passée, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, quelques mois après, j'ai découvert la médecine générale en stage, en cabinet, et ça a été une grande révélation. Je me suis rendu compte à ce moment-là de ce que c'était la relation patient-médecin, de tout ce qu'on pouvait faire et du côté humain de la médecine, que j'ai trouvé incroyable. Et c'était vraiment comme ça que je me projetais plus tard dans mon exercice. Et ensuite, le fait de toucher un petit peu à toutes les pathologies, ça m'a beaucoup plu. Et vraiment, cette relation humaine qu'on peut avoir, j'ai pu la développer aussi en soins palliatifs. Et je n'exclus pas de faire des soins palliatifs aussi après la médecine générale, ce sera à voir.
Merci beaucoup Isor, merci beaucoup professeur Cosset, merci François Marchand. Il nous reste quelques minutes. Le professeur Cosset donc, a rédigé cette très bonne chronique parue dans Le Point, Euthanasiste, un métier d'avenir. Il suffit de taper ça, vous pourrez lire le texte. J'ai l'impression que vous avez le goût de l'écriture. J'espère vous recevoir bientôt avec ce roman 12 fois remanié avec un éditeur assez sot pour ne pas le prendre. Voilà, et que vous trouverez comme François Marchand un bon éditeur, ici Buchet Chastel, pour Dans la dignité. Merci beaucoup d'être venu ici pour présenter votre livre et votre combat. On vous sent bien plus énervé quand vous en parlez que dans votre écriture, qui est une fois de plus une dystopie tranquille et qui est d'autant plus effrayante. Et merci évidemment mille fois Isor d'être venu ici témoigner du fait que la jeunesse en fait, est du côté de la vie et pas de la mort. Et demain, c'est Arthur de Vatrigan qui vous entretiendra.
Ça suffit maintenant.